9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Plusieurs syndicats de soignants appellent à la grève jeudi prochain dans toute la France. 8 mois après le début de la pandémie de coronavirus, le problème est toujours le même, le manque de lits et le manque de personnel dans les hôpitaux. L'économiste Robert Boyer, qui vient de publier « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie à la découverte », est au téléphone avec nous ce matin. Je reçois ensuite la philosophe Cynthia Fleury, qui vient d'écrire un essai sur le ressentiment, sur ce qu'elle appelle aussi la rumination victimaire. Et Eric Orsena, qui se passionne pour le cochon en tant qu'animal, en tant que nourriture, mais aussi parce qu'il permet de soigner beaucoup d'entre nous. Bonjour Robert Boyer.
Bonjour.
Plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants ont appelé à une journée de grève dans tout le pays jeudi prochain. Sans un signal fort, disent-ils dans leur communiqué, la deuxième vague de Covid-19 risque de faire s'écrouler notre système de santé. On manque donc toujours autant de lits et de personnel soignant comme au mois de mars.
Oui, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que le désarroi des autorités publiques en mars, qui portait sur les masques, les réanimateurs, les ventilateurs, paradoxalement se reporte sur l'échec relatif de détection, de traçage et d'isolement, au fait que, en gros, la politique était la bonne, mais l'intendance n'a pas suivi. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré les 3 mois de relâchement de la pandémie, on n'en a pas profité pour reconfigurer le système de santé, et tout particulièrement l'hôpital, qui avait tenu grâce au chamboulement de ses méthodes de travail, grâce à une plus grande autonomie donnée aux équipes médicales et au relâchement de la contrainte budgétaire. Cette dernière est revenue, et ce qui me chagrine énormément, c'est que bien sûr nous retrouvons à peu près les mêmes problèmes, intensification du travail, manque de personnel formé, incertitude quant à l'arbitrage entre intervention normale et intervention Covid, autant de problèmes que les autorités avaient tout loisir de tenter de résorber dans le relapse de la pandémie.
Mais c'est pourtant la crainte de l'embouteillage dans les hôpitaux, par les malades du Covid et par ceux qui souffrent d'autres pathologies, et la surmortalité qui pourrait en découler, qui détermine depuis 8 mois toute la politique du gouvernement, c'est-à-dire le confinement d'abord, l'arrêt de l'économie, ça c'était en mars, et encore aujourd'hui, la fermeture des bars ou des restaurants, des gymnases, des clubs de sport, des piscines, des foires, des salons, des salles de jeu, l'interdiction des événements sportifs, tout est déterminé par ça pourtant.
Exactement, c'est ça qui est très surprenant. Il n'y a pas de causalité multiple. Tout le plan du gouvernement était de limiter le refus d'hospitalisation des cas les plus graves. Donc c'est là le goulot d'étranglement à partir duquel on jugeait le gouvernement à partir de sa capacité à minimiser le nombre de décès, toutes catégories confondues. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que la reprise en main de l'hôpital par ses critères normaux, si vous voulez, malgré le Ségur de la santé qui a augmenté les salaires des soignants, elle n'a pas pour autant créé spontanément tous les infirmiers réanimateurs, les médecins réanimateurs qui seraient nécessaires. Donc on retrouve un peu le grand drame de cet épisode. Lente détérioration pendant 1 ou 2 décennies des capacités hospitalières en dépit de l'investissement, et puis la brutalité du Covid appelle à un ajustement, mais qui prend du temps. Et nous sommes toujours dans cette période du retard des décisions publiques par rapport à la nécessité de la période. C'est un appel à la modestie. Faites attention, la précipitation et l'improvisation ne remplacent pas une politique de long terme de santé publique.
Dans votre livre « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie », Robert Boyer, vous expliquez que la crise que nous vivons aujourd'hui est totalement inédite. Hein. Elle n'a rien à voir avec les crises de 1929 ou la crise de 2008 avec lesquelles on la compare. Comment est-ce que vous définiriez cette crise que nous vivons aujourd'hui ?
Cette crise vient du fait de l'arbitrage presque au niveau mondial de la santé avant la prospérité économique. Alors que vous voyez, les autres crises, même épidémiologiques, étaient la mortalité causée par les virus impliquée des crises économiques par arrêt de l'économie. Donc c'était en quelque sorte un mécanisme endogène. Épidémie et économie cheminaient et engendraient une récession. Comme vous le savez, dans les 2/3 des pays, imitant les Chinois, les gouvernements ont arrêté l'économie. Et ça, du coup, c'est une chute verticale de la production pour préserver la santé publique. Et la chose qui est tout à fait intéressante, ce mouvement face à l'incertitude que les gouvernements avaient à surmonter a été assez général, de sorte que vous, non seulement le virus était mondial, mais les politiques ont elles-mêmes été mondiales. Donc il y a une synchronisation des politiques d'arrêt de l'économie pour un motif de santé publique. Et ceci restera dans l'histoire. Alors, par parenthèse, ça pourrait anticiper ce qui serait nécessaire pour la lutte contre le changement climatique. On aurait ce même mécanisme de décision publique qui affecte simultanément dans tous les pays la dynamique sociale interne.
Mais alors, cette crise est totalement inédite et pourtant, nous en parlons avec les mêmes mots que l'on utilisait pour la crise de 1929 ou de 2008. On parle de récession, par exemple. Ça vous énerve beaucoup, ça ?
Ah, écoutez, je viens de voir dans le flot de nouvelles de Bloomberg, le FMI qui parle de la récession mondiale de 2020. Et j'en suis atterré. Parce que ceci n'est pas une récession, ça s'appelle la chose suivante, difficulté de reprise de la conjoncture économique après un arrêt brutal qui a désynchronisé l'activité scolaire, les transports, les services publics, l'activité productive. Alors moi, j'étais effaré ce matin de voir, parce que la FMI est peuplée d'économistes aussi talentueux que bien informés, et on parle encore de récession. Alors, du coup, d'ailleurs, on voit bien que les plans des gouvernements sont des plans qui miment le plan de 2008, mais au lieu de l'appliquer aux banques, on l'applique aux ménages et aux entreprises. C'est-à-dire, en gros, l'argent va compenser l'absence de médicaments et de vaccins. C'est une drôle d'enfermement dans une vision très économiste. Je suis vraiment surpris que les yeux ne s'ouvrent pas sur la réalité de cette crise. Tout va passer par les méthodes pour surmonter ou à s'adapter en permanence à la circulation du virus.
Les plans de stimulation de l'économie auxquels vous faites allusion, les 460 milliards de plans d'urgence, les 100 milliards de plans de relance, effectivement, vous dites que ce ne sont que des soins palliatifs.
Exactement. Vous savez, je suis rejoint par Xavier Timbaud de l'OFCE, etc. Alors, ce n'est pas mauvais. Les économistes ne sont pas contre, mais ce n'est pas à la hauteur de la situation, ce n'est pas cela qui fera repartir. Vous voyez, imaginez que vous ayez une incertitude complète, par exemple, peut-on imaginer une relance du tourisme à l'occasion des vacances de la Toussaint ? Pas du tout, puisque les contrôles liés au virus, le manque de transport aérien interdit cette reprise, et c'est ça le grand problème. Subventionner Air France et Airbus ne va pas solutionner le problème de l'arrêt de la mobilité internationale, ou du moins sa drastique réduction. Et à nouveau, l'économiste pense que l'investissement monétaire peut compenser tout problème quel qu'il soit. Le virus apprend la modestie. Non, il faut adresser une politique sanitaire et le retour à une économie fonctionnelle sera le résultat.
On fait une pause, Robert Boyer, je vous retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'économiste Robert Boyer qui publie Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie et aux éditions de la Découverte, un livre écrit à chaud, hein, pas à pas, au fur et à mesure que tout le monde, en même temps les gouvernements, les financiers, les scientifiques et les économistes découvraient cette pandémie et ses conséquences sur le plan social et économique. Par exemple, les États s'endettent comme jamais. Quoi qu'il en coûte, avait dit et répété Emmanuel Macron, alors qu'il y a un an, à la même époque, augmenter les dépenses publiques, c'était considéré comme un péché mortel. Hein. C'est un renversement total, là encore.
Oui, et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la fragilité des consensus de politique économique. Il y a un an, on n'aurait jamais imaginé, puisque, en gros, le président de la République lui-même avait dit « il n'y a pas d'argent magique » en réponse aux demandes des personnels soignants, en particulier des hôpitaux. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à une politique de la Banque Centrale Européenne extrêmement accommodante, voilà qu'il est tout à fait aisé de faire refinancer par la Banque Centrale tous les déficits publics liés à l'accroissement des dépenses. Et ceci n'est pas sans troubler la confiance dans les gouvernements. Comment se fait-il que brutalement l'argent magique qui était supposé ne pas exister, qui était une utopie, devient réalité. Du coup, la question qui est importante, c'est quand même la bonne explication des raisons de ce basculement.
Et pourtant, excusez-moi de vous interrompre, Robert Boyer, mais pourtant il n'y a pas eu d'argent magique pour augmenter le nombre de lits d'hôpitaux, pour recruter du personnel soignant. Alors c'est là où on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ?
Parce qu'on a voulu faire donc des soins palliatifs à éviter la faillite grâce au financement du temps partiel, grâce à des crédits reportables, à report des cotisations sociales des entreprises. On a aidé les entreprises à passer un mauvais moment. Et c'est là où nouveau la sémantique, après la récession, la reprise. On s'est dit, une fois qu'on leur a évité de faire faillite, alors spontanément repartira la croissance. Alors que l'accent aurait dû être mis, quel est le point limitant dans la reprise ? C'est la confiance dans la salubrité publique. Donc l'investissement, alors il y a un plan Ségur très fourni, mais il ne produira ses effets qu'à 3 ou 4 ans. Et on n'a pas méticuleusement tiré les leçons des lacunes de la première vague de la Covid, au point de resynchroniser, par exemple, laboratoire d'analyse, médecine de ville, hôpital. Et c'est cette, en quelque sorte, il y a un halo de la conception antérieure, la santé dérive de l'économie. Et c'est cette erreur que continuent à payer beaucoup de gouvernements. Le cas de paroxysme est aux États-Unis. Le président Trump a joué l'économie contre la santé et il s'aperçoit que l'économie ne repart pas précisément du fait. Et c'est pour cet homme d'affaires une déception totale. Comment se fait-il que les dollars n'arrivent pas à acheter le retour à la croissance ? Et c'est donc, à nouveau, l'économie et ses mécanismes sont remis à sa bonne place par rapport à la dynamique de la société.
Au fond, depuis le début de cette crise sanitaire, les gouvernements, les scientifiques, les économistes, les entreprises, les marchés financiers sont confrontés à la même incertitude radicale, hein, que vous résumez dans votre livre de la façon suivante. Comment décider lorsque l'on sait que l'on ne sait pas encore ce que l'on finira bien par savoir, mais trop tard. Au fond, pour l'instant, on ne sait pas encore. Et à partir de là, tout se renverse. Tout devient...
Exactement. Vous voyez, cette devise que j'ai trouvée déjà en avril s'applique pas toujours du vaccin. Mais vous savez qu'il y a des expériences qui montrent que 6 mois après avoir été touché, l'immunité disparaît. Donc imaginez cette incertitude. Tout le monde voit que au printemps ou l'été prochain, les vaccins vont inonder le monde, ce qui est déjà un vœu assez pieux. Mais imaginez que la protection ne dure que 3 mois, 6 mois. Les scientifiques ont fait des progrès absolument considérables. C'est extraordinaire. Mais ce virus a des nouveautés qui défient le savoir accumulé des biologistes. De telle sorte que cette incertitude se réduit, mais elle est encore telle que les gouvernements ne peuvent plus faire de plan déterministe, si vous voulez. Il faut suivre la dynamique de cet élément. Alors, les plus touchés sont les financiers, si vous voulez. Les financiers avaient l'habitude de contrôler, à travers des produits compliqués, anticiper le futur. Et là, ils sont obligés, ils ne progressent au prorata des avancées médicales et des succès des gouvernements dans la reprise économique.
Mais depuis le début des années 2000, disiez-vous, la sphère financière avait imposé ses représentations et ses objectifs, y compris aux États. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc.
Alors, ben oui, vous voyez que par l'intermédiaire, on a retrouvé le fait que la Banque centrale appartenait en fait à l'appareil d'État. Si vous regardez bien, par exemple, en Angleterre, le Trésor public et la Banque centrale d'Angleterre ont fusionné. Aux États-Unis, mutatis mutandis, à travers des modalités techniques. Du coup, les financiers ne sont rassurés que parce que l'État garantit la solvabilité des banques, la solvabilité des entreprises. Et donc, vous voyez, à nouveau, les financiers réalisent ce qu'ils sont dépendants, un, du cours de la Covid-19 et deux, de la bienveillance des banques centrales et des gouvernements qui les aident. Donc, à nouveau, au lieu d'être en position de dominant, eux-mêmes sont dépendants de deux instances qu'ils avaient complètement négligé.
Au fond, il n'y a qu'un vaccin qui peut nous sortir de l'incertitude dans laquelle nous sommes tous plongés. Et il faut que ce vaccin soit distribué dans le monde entier pour que nous puissions retrouver enfin la prospérité économique.
Et vous voyez que même s'il y a un consortium auquel la Chine s'est joint récemment, ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a un problème de logistique, un problème d'accessibilité, etc. Et donc on est que, vous voyez que l'aspect important, c'est que tous les moindres pays, même les plus pauvres, doivent avoir accès à ce vaccin, car cette immunité collective ne sera atteinte que lorsque le monde entier, à nouveau, extrême solidarité nécessaire, ce qui, à mon avis, devrait remettre en selle un rôle déterminant de l'Organisation mondiale de la santé, qui devrait être le vecteur de cette sortie de crise, ce qui n'en prend pas le chemin du fait des zizanies politiques associées à la gouvernance de l'OMS réputée trop favorable à la Chine aux yeux des Américains.
Merci, donc, vous voyez, je suis obligé de vous interrompre, Robert Boyer. Merci beaucoup. Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, ça vient de paraître aux éditions de La Découverte. On se retrouve dans un instant avec Cynthia Fleury.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Bonjour Cynthia Fleury, vous êtes philosophe. Votre nouvel essai s'intitule « Sigil la mer avec un L apostrophe », c'est sous-titré « Guérir du ressentiment ». Le ressentiment est considéré comme un mal d'aujourd'hui. Pourquoi ? Je me souviens quand, autrefois, c'était quand on avait souffert dans son enfance de la pauvreté, du racisme ou des moqueries, on voulait prendre sa revanche et c'était considéré comme positif de prendre sa revanche. Le ressentiment, ça n'est pas positif.
Oui, non, le ressentiment, c'est pas prendre sa revanche. Le ressentiment, ce n'est d'ailleurs pas la vengeance. Ce n'est pas que l'envie, ce n'est pas que la colère. Le ressentiment, c'est l'installation, l'enracinement dans une rumination. Et donc, à un moment donné, de ne plus savoir faire la différence entre la conscientisation d'une souffrance qui est objective, une réalité, et puis tout d'un coup, ce que l'on va en faire comme principe de non-action et de réaction pulsionnelle. Et donc le ressentiment, c'est ce grondement sourd et qui au départ se focalise et qui est causé, mais qui à un moment donné, parce qu'il perdure, n'est plus causé et s'indifférencie, et c'est une espèce de, comme si c'était un poison, et d'ailleurs c'est la formule de Scheller, un auto-empoisonnement. Et le problème, c'est que plus ça rentre en vous, plus ça pénètre en vous, moins vous êtes capable d'action et plus vous êtes capable de réaction, ce qui n'est pas la même chose.
Et celles et ceux qui se considèrent comme discriminés à cause de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur classe sociale, de leur orientation sexuelle, de leur métier ou de leur niveau d'études, ça a toujours existé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Internet permet désormais d'exprimer son ressentiment.
Ah oui, alors Internet est extraordinaire pour ça, puisque c'est vrai que les réseaux sociaux, l'anonymat des réseaux sociaux permet de donner à ce que Orwell avait théorisé dans 1984 comme les 2 minutes de la haine, vous savez, où chacun vient vomir pendant 2 minutes, dire à quel point il hait ce monde, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas 2 minutes, c'est toute la journée. Et vous avez le vomissement absolu et qui, bien évidemment, ne règle rien. C'est là où Scheller montre assez bien les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'action politique, ça. C'est précisément de la non-action. Donc, le ressentiment est un moteur de l'histoire en produisant, en fait, de la non-action politique. C'est ça qui est... En produisant de la régression. Et donc, bien évidemment, ça crée un phénomène d'involution historique et qui est terriblement dommageable pour les sociétés. Moi, ce qui m'intéressait de montrer, c'était que, en fait, la question du bon gouvernement pour les démocraties, bien évidemment, c'est une question déterminante, etc. Mais ce n'était pas la question la plus fondamentale. C'était une question, en fait, qui revenait aux moyens. La question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que faisait un État social de droit pour endiguer et pour ne pas renforcer objectivement les conditions du ressentiment ? Parce que le ressentiment démocratique est peut-être la seule chose qui peut mettre à mal la démocratie. Donc ça, c'était l'objet de la démocratie. Mais c'était également l'objet de l'individu. C'était un double objet, en fait.
Cynthia Fleury, MeToo, par exemple, est-ce que c'est la rumination victimaire dont vous parlez dans votre livre ? Est-ce que vous rangez ça dans le ressentiment ? Les adeptes de la cancel culture qui voudraient voir disparaître des gens comme Roman Polanski ou Gabriel Matzneff, pour ne citer qu'eux, mais il y en a d'autres, c'est le ressentiment qui les guide ?
Alors, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas dire, justement, comme ça, qui est dans le ressentiment, qui ne l'est pas. Chacun d'entre nous, nous traversons, et nous avons d'abord, nous, des pulsions ressentimistes, et puis des pulsions compliquées, etc., mais nous allons en faire quelque chose, et chaque mouvement historique est souvent pris au piège. Oui, il y a une part ressentimiste, et on va d'ailleurs voir très souvent qu'à l'intérieur même de ceux qui vont former une action, il va y avoir une séparation entre cette part ressentimiste, cette essentialisation victimaire, et ceux qui utilisent la colère le refus, le, et même hein, parfois le pas la haine, mais en tout cas ce sentiment de rage pour en faire quelque chose et pour faire une action qui va être autre chose que du ressentiment. Et le problème, c'est que c'est très poreux. C'est extraordinairement difficile. Et moi, je ne vais pas me retrouver en étant l'arbitre des élégances ressentimistes des uns et des autres.
Mais vous comprenez bien aussi que le fait d'en faire quelque chose, on peut en faire quelque chose de terrible. Hitler a fait du ressentiment des Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale.
C'est pour ça qu'il faut...
Quelque chose de terrible. Mais la résistance a prospéré aussi sur le ressentiment contre ceux qui occupaient notre pays. Et c'est ce qui a garni, probablement, une partie des rangs de la résistance. De même, on peut dire qu'il y a du ressentiment chez les Palestiniens ou chez les Kurdes, il y a probablement du ressentiment chez un certain nombre de terroristes qui nous attaquent aujourd'hui.
Voilà. Alors, c'est là où on diffère, voyez, vous et moi. C'est qu'à un moment donné, pour quand même essayer de se séparer du ressentiment, on va en faire plutôt un moteur de l'histoire qui est quand même d'abord mortifère et de la sublimation du ressentiment. Ça, on va l'emmener vers effectivement quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'action, etc. Alors, c'est facile, ça aide à diviser le monde. Donc, il ne s'agit pas de diviser le monde, puisque ça peut traverser un même sujet, mais il n'empêche que psychiquement, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, n'être que dans le ressentiment ne produit pas une action collective, qualitative, d'évolution. C'est faux, c'est comme ça. Vous pouvez le... Mais en revanche... Très souvent, oui, l'histoire est hélas construite par le ressentiment. Oui. Et là, nous allons vivre, puisque vous me demandiez au départ, mon Dieu, c'était actuel, c'est à la fois un moment psychique. Donc, si c'est un moment psychique, il est éternel. Hein, donc, il reviendra tant que nous n'arriverons pas à conquérir une maturité psychique. Donc, ça, c'est un premier point. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est extraordinairement présent pour un point essentiel, c'est que nous avons des conditions objectives d'insécurité économique, d'insécurité culturelle, d'insécurité politique, etc. Ça a été dit par quantité de personnes, et moi, dans mon travail, tous les jours, je travaille pour précisément ne pas renforcer ces vulnérabilités-là et faire le travail du côté de la culture, de l'éducation, de la santé. Mais il n'empêche que il y a une pulsion ressentimiste, et il y a un individu aujourd'hui qui cède beaucoup plus facilement à sa pulsion ressentimiste. Et ça, c'est un point problématique.
On peut en guérir ?
Eh bien, c'est la question. Le sous-titre du livre. Je ne sais pas répondre à cette question. Je dis en exergue du livre que, précisément, en tant que philosophe, en tant que psychanalyste, je vais poser de manière presque autoritaire que c'est possible. Mais je n'en sais rien parce que j'ai en tout cas en clinique la preuve des deux. Et je ne saurais pas dire quand l'individu ne semble pas en guérir, s'il n'en guérit pas parce qu'il ne le peut pas de manière substantielle, donc il n'est pas responsable, ou parce qu'il ne guérit pas parce qu'il est rentré dans un phénomène de complaisance. C'est extrêmement difficile. Je pars du principe en revanche que de poser que l'homme ne peut pas en guérir, c'est lui proposer un destin de soumission collective. Et que donc ça, je ne peux pas le valider.
Sigil Lamer, c'est sous-titré « Guérir du ressentiment » et c'est signé Cynthia Fleury, c'est paru chez Gallimard.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
C'est Éric Orsenna de l'Académie française qui se trouve à présent avec nous. Bonjour Éric Orsenna.
Mais bonjour.
Vous faites paraître votre 6e petit précis de la mondialisation. Après le coton, l'eau, le papier, le moustique, les villes, voici les cochons. C'est sous-titré « Voyage au pays du vivant ». Ça vient de sortir chez Fayard et Stock. Pourquoi les cochons ? Et pourquoi « Voyage au pays du vivant » ?
Parce que dans tous ces petits ouvrages que vous avez cités pour explorer la mondialisation, ce qui me passionnait, c'était les interdépendances, c'est-à-dire les relations. C'est-à-dire le commerce, une interrelation entre les êtres humains, les relations avec les matières, avec le coton ou avec l'eau, avec les éléments. Et puis j'avais déjà travaillé il y a 4 ans sur les relations entre les êtres humains et certains animaux, puisque j'avais fait géopolitique des moustiques. Mais j'avais eu envie de monter en gamme un peu dans les animaux, et puis en plus dans qualité gastronomique. parce que le filet mignon de moustique est quand même assez limité. Et donc, je me suis dit, tiens, le cochon. Et comme le cochon est la viande la plus consommée, puisque c'est quand même un milliard de porcs consommés chaque année.
Et tout est mangeable dans
tout
le cochon,
à part les dents. Et qu'en plus, il est très proche de nous, puisque à 95% de gènes, c'est pareil. Et en plus, il a des organes qui sont à peu près semblables aux nôtres et situés de la même manière, avec un poids qui est un peu supérieur au nôtre, mais enfin pas complètement différent. Et par exemple, une peau qui est une peau rose comme la nôtre, la plupart des cochons sont roses. Donc ça a une dimension médicale et une utilité médicale incroyable.
Alors justement, c'est la viande la plus consommée dans le monde, mais en même temps, pourquoi est-ce que deux des trois grandes religions monothéistes l'ont-elles rendu tabou ? C'est un interdit alimentaire, et dans la religion juive et dans la religion musulmane, le cochon. Quelle est votre explication ?
Alors, moi je suis très humble par rapport aux grands historiens, notamment Michel Passereau, qui est mon maître absolu.
Et qui a beaucoup écrit sur le cochon.
Sur le cochon, et puis sur les couleurs. C'est un historien absolument magnifique. Et donc, lui, ce qu'il pense, c'est qu'au fond, ce n'est pas tellement pour des raisons sanitaires. Ce n'est pas parce que le cochon est difficile à digérer, puisqu'au fond, il y a des pays extrêmement chauds.
Ou à conserver dans les pays chauds.
Non, puisque dans des pays très chauds, on consomme énormément de cochons. C'est sans doute parce que le cochon étant si proche, nous, génétiquement et de façon physiologique, qu'au fond, en mangeant le cochon, on se mange soi-même.
Surtout que, paraît-il, le goût de la chair humaine a le même que le goût du cochon.
Alors, j'ai pas encore essayé.
Lui non plus, Michel Passereau, mais c'est ce qu'il
disait.
Lui
non plus, mais d'ailleurs, on doit se voir pour essayer de goûter, mais dans des officines assez particulières, parce que c'est relativement interdit quand même.
Alors vous racontez, ça va dans tous les sens ce livre, hein, dans le passé, partout dans le monde, la viande de porc était particulièrement prisée au Moyen-Âge, et puis tout à coup à partir du XIIIe on s'est mis à préférer le bœuf, et les cochons sont redevenus sauvages, j'aime beaucoup cette image.
Moi j'adore ce moment parce que c'est jamais continu le entre guillemets progrès, ça va dans un sens puis dans un autre. Et ce qui est une histoire qui me fascine, qui précède un peu celle que vous disiez, c'est que vous savez qu'on invente l'agriculture moderne qui remplace la cueillette, c'est-à-dire on plante entre le Tigre et l'Euphrate, et puis on...
7 ou 8 000 ans avant notre ère,
voilà,
c'est le néolithique.
On invente l'élevage au lieu d'aller chasser. Et donc après, on se trouve un peu à l'étroit entre le Tigre et l'Euphrate, donc on va plein ouest, vers l'Europe de l'Ouest. Et évidemment, les animaux qu'on a élevés rencontrent d'autres animaux sauvages, donc ils se mélangent. Et les seuls cochons purs, si je puis dire, sont les cochons corses, parce qu'ils sont arrivés directement de Mésopotamie. Alors mes amis corses, Rocacera, qui sont là près de Lévis, comme ça, alors je leur ai appris que l'ordustral, leur cochon de chez eux, étaient les héritiers directs des cochons de Mésopotamie.
Les premiers, donc, qui sont arrivés.
Oui, voilà, grâce aux navigateurs phéniciens. Donc ce genre de choses, vous voyez, me ravissent complètement. Et alors ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, la mode est aux cochons, et puis on les oublie parce que c'est des bœufs, donc on les laisse aller dans la forêt, et puis comme on se dit mais finalement c'était pas si mauvais, hop, ils reviennent près des fermes. Donc c'est toute cette histoire qui me fascine, c'est-à-dire ce long compagnonnage entre les cochons et nous, depuis maintenant quasiment 9000 ans.
On en a relancé l'élevage au milieu du 18e, mais c'est au 19e siècle que commence véritablement son industrialisation. Le cochon devient une usine à viande. Hein. Quand on parle de l'industrialisation de l'élevage, ça commence au 19e siècle.
Ça commence à ce moment-là parce qu'on avait, au fond, comme source de viande, on a eu les bovins, mais on avait beaucoup les cochons et puis on avait les pigeons. C'est pour ça qu'il y a tellement de pigeonniers dans les bâtiments les plus anciens. Et puis, les fermes avaient 2-3 cochons. On les tuait vers la fin novembre et puis le début décembre. Et à partir de là, on fabriquait toutes sortes de choses avec des charcuteries qui pouvaient se garder pendant un an. Et puis, quand on n'avait plus de charcuterie, boum, on retuait un autre cochon. Donc, c'était tout à fait artisanal. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais non, on peut faire des tas de choses. Et l'exemple de la Bretagne est fascinant. C'est-à-dire ma région que j'aime tant est sorti de la vraie pauvreté. Moi, je suis né en 47 et jusqu'à la fin des années 50, la Bretagne est vraiment pauvre. Donc, comme il y avait assez peu de terres, au fond, on a multiplié les élevages de cochons avec de plus en plus de cochons.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, la France, je crois, élève 25 millions de cochons par an, et principalement en Bretagne. Vous racontez l'histoire, d'ailleurs, de Jean Hénaff, en 1914, en Bretagne, qui mettait depuis quelques années du thon et des sardines en conserve, et qui a l'idée d'y mettre du cochon.
Il n'y avait plus de poisson.
C'est la naissance du pâté Hénaff, où le cochon est tout entier transformé en pâté.
Tout entier. Et alors, c'est ça, il y a des tas de recettes, parce que ma grand-mère était lyonnaise. Donc j'apprends avec passion, j'adore la nourriture. Et alors, il y a des vraies recettes de pâté. Alors évidemment, il ne donne pas sa recette, Hénaff, bien sûr. Mais il y a d'autres recettes qui sont formidables. Par exemple, le boudin de Christian Parra. Alors ça, c'est magnifique, qui est fabriqué par Anne Rosès, là-bas, pas loin de la vallée des Aldudes. C'est absolument magnifique, dans le Pays Basque. Là, c'est inouï, il y a tout dedans. Tout dedans, pas seulement le jambon, c'est un mélange, c'est-à-dire la générosité du cochon. Donc il faut le traiter le mieux possible si on accepte de manger les animaux, et puis le respecter le plus possible et le saluer, lui dire merci monsieur cochon.
On se retrouve dans un instant, Eric Orsenna.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Eric Orsenna de l'Académie française qui publie son 6e petit précis de la mondialisation. Les cochons, voyage au pays du vivant, c'est paru chez Fayard et chez Stock. Il a fallu 2 éditeurs pour financer tous vos voyages, j'imagine.
Écoutez, il m'est arrivé quelque chose qui va rendre jaloux le reporter que vous êtes. C'est que, alors qu'on n'y croyait pas du tout, quand j'ai fait mon premier petit précis de mondialisation, sur le coton, franchement, personne n'était intéressé. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait bien. Et un jour, mon éditeur, Jean-Marc Roberts à l'époque, m'appelle et me dit « Tu as vu les tirages ?» J'ai dit « Bien sûr, j'ai vu les tirages. » Alors, 2 points, ouvrez les guillemets, il m'a dit « À partir de maintenant, écoutez bien, tu vas où tu veux, je paye. » Donc vous pouvez dire ça au directeur d'Europe, « Tu vas où tu veux, je paye. » Donc il ne m'a plus jamais revu. Parce que mon rêve à moi, quand j'étais petit, c'était comme Albert Londres, comme Kessel, comme ces grands immenses. Donc c'est vrai que j'ai cette chance immense de pouvoir partir 2 ans et rencontrer absolument qui je veux. C'est-à-dire que là, je travaillais depuis 2 ans sur une autre épidémie qui ne touchait que les porcs, la peste porcine. Lorsque
peste porcine qu'on encourage les gens à appeler plutôt la fièvre porcine.
Oui, bien sûr.
Vous le dites
bien
dans votre livre. Je le dis
parce que alors voilà le critère est clair. Dès que vous avez un cochon qui a des oreilles un peu rouges, attention. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout été étonné par cette nouvelle pandémie qui cette fois touchait les humains. C'est le même mécanisme.
Alors, on se soigne aussi grâce aux cochons. Hein, l'insuline, par exemple, pour les diabétiques, le cancer. Il y a surtout des greffes. Alors, les greffes, ça m'a vraiment étonné. Vous racontez que, encore une fois, le cochon nous étant très proche, on peut nous greffer.
Mais on greffe des milliers. Il se trouve que le premier mari de ma femme, que j'aime tendrement, est chirurgien cardiaque. Donc, il a greffé des milliers de valves de porc à des êtres humains. Encore faut-il qu'ils ne soient pas musulmans, parce qu'ils ne supportent pas, évidemment, d'avoir un morceau de porc en eux-mêmes. Donc, c'est des questions, on retrouve la question des tabous dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a des milliers de porcs. Donc, on greffe soit des valves de porc, et on élève des porcs juste pour ça, à la bonne dimension, pour avoir la bonne dimension, ça marche très très bien.
Alors justement,
ou alors les veaux aussi.
Cette question de dimension, vous dites qu'on a créé des porcs spécialement pour les chercheurs, au fond, parce que le porc, ça peut être très très gros, il y a beaucoup beaucoup de viande, et pour les chercheurs, on a fait des porcs à notre taille, en fond. Par exemple, le mini-porc Yucatan, qui a été créé en 1970, c'était pour qu'il soit plus proche des mensurations des êtres humains.
Alors imaginez qu'il y a des armoires où on réserve des valves. Des aires évidemment réfrigérées et dans des conditions d'élevage très particulières parce qu'évidemment, il faut qu'ils soient protégés de tous les virus qu'on puisse imaginer. Et donc, le travail de chirurgie, donc, vous voyez, c'est ça qui me fascine. C'est ce lien extrêmement intime entre le cochon et nous. Parce qu'on pense que nous sommes complètement séparés des animaux. Et Diderot disait cette phrase formidable. Vous pensez qu'il y a de la contiguïté, c'est-à-dire vous êtes à côté des animaux. Pas du tout, disait-il. Il y a de la continuité.
Ne serait-ce que parce qu'on les mange.
Ne serait-ce que parce qu'on les mange, mais on les ressemble beaucoup. Notre peau, par exemple, pour étudier la naissance d'un cancer de la peau, on a irradié ces malheureux cochons avec des particules atomiques pour voir jusqu'où on pouvait irradier c'est-à-dire les rayonnements du soleil, jusqu'à ce qu'apparaisse le cancer. Donc vous voyez, c'est un lien très très étroit
et vous
à la
dites
fois d'exploration et de soins.
Qu'on développe des foies humains dans, dans des fœtus portés par des truies.
Exactement. Donc on invente ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire on prend un organisme, à l'intérieur d'un organisme, on en crée un autre en faisant des sortes d'implantations. Donc c'est assez vertigineux.
Quand vous mangez du jambon aujourd'hui, Eric Orsenna, ça vous semble différent depuis que vous avez fait cette enquête et écrit ce livre ?
Alors, pour être franc, je mange du jambon différent aussi, parce que j'ai appris à reconnaître les vrais bons jambons et des jambons nettement moins bons, qui sont des sortes d'amas de protéines. Et par exemple, je fais une différence énorme entre le jambon espagnol qu'on appelle Serrano, qui est un jambon nul, et puis le Bellota Bellota, qui est un trésor absolu, parce que ce nom Bellota, c'est les glands, c'est la nourriture de ces porcs-là qui vivent en liberté. Et alors ce jambon-là est une merveille absolue, avec un goût de noisette, avec une sorte de gras qui fond légèrement. Il faut le faire monter à température de tiédeur, et ça avec une manzanille, c'est quand même magnifique. C'est pour ça que c'est évidemment totalement contradictoire d'aimer tellement un être que l'on mange.
Alors, c'est fou parce que quand on parle de transhumanisme, on nous imagine avec des puces, des organes artificiels, bourrés d'électronique. Mais au fond, on portera vraisemblablement de plus en plus des organes fabriqués en commun avec les animaux, au fond. Les cochons, là encore, seront en première ligne.
Alors, ça me fascine cette notion d'hybride. Et c'est-à-dire que nous sommes humains, mais nous sommes aussi animaux, déjà, puisque nous appartenons au monde animal. Mais cette hybridité, c'est-à-dire qu'on va être fait de briques et de brocs, avec, disons, une majorité, jusqu'à un certain temps, d'éléments humains, et puis d'autres qui vont arriver. Peut-être on aura des yeux, comme ça. Donc, il n'y a pas seulement que les manipulations génétiques, vous voyez. C'est-à-dire, c'est que l'intimité entre en nous, puisqu'il y a des morceaux de l'animal qui sont en nous. Alors c'est cette découverte, c'est ça qui me fascine, voyez, dans ces enquêtes, car je pars 2 ans alors que j'y connais rien.
Merci Eric Orsenna. Les cochons, voyage au pays du vivant, ça vient de sortir chez Fayard et Stock.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve le week-end prochain, juste après le flash. C'est le grand rendez-vous Europe 1 avec CNews et les Échos. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Vous recevez Brice Hortefeux.
Oui, l'élection présidentielle se prépare et la droite affiche ses ambitions et ses divisions.
Merci Mickaël. À tout de suite.